Valeurs de la République, une série extra classe. Présentée par Laetitia Pourrel.
Bonjour Cédric Passard.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à Sciences Po Lille, où vous y enseignez la sociologie politique. Vos recherches sont consacrées notamment à l'histoire intellectuelle et la sociologie historique du politique. Et vous avez publié aussi un ouvrage sur le pamphlet politique. Vous revenez sur la question de la liberté d'expression et la satire dans un ouvrage qui est attendu pour début 2021. Aujourd'hui, vous avez accepté d'expliquer pour les auditeurs d'Extra Classe le rôle de la caricature et ce qu'elle peut apporter en classe. Alors, on va commencer par notre première question. Alors que nous vivons une période d'interrogation sur la manière de faire vivre et d'enseigner ces valeurs, les valeurs de la République, pouvez-vous nous expliquer tout simplement ce qu'est une caricature et à quoi elle sert ?
Comme souvent, l'étymologie est assez précieuse. Le terme de caricature, il vient d'un terme italien qui est lui-même dérivé d'un terme latin qui signifie caricare et qui signifie charger. Donc, la caricature est d'abord une charge, c'est-à-dire qu'elle a pour vocation d'outrer, voire d'outrager. Elle repose toujours sur une forme d'exagération de situation ou une amplification de certains traits caractéristiques, qu'il s'agisse de personnes ou de groupes. Et d'ailleurs, elle prend des formes diverses. Hein. On a des caricatures qui sont des caricatures type portrait-charge, c'est-à-dire on se concentre sur une personnalité. On a des caricatures de type qui prennent un personnage emblématique de qualité ou de défaut supposé d'un groupe, c'est par exemple le beauf chez Cabu. On a des caricatures aussi de mœurs, comme on a pu le voir avec les caricatures de Daumier, par exemple, au XIXe siècle, ou plus récemment avec celle de Wolinski ou encore de Pétillon. Donc la caricature, on peut en retrouver des traces de manière très très ancienne, puisque déjà les peintures grotesques sous l'Antiquité, on peut considérer que ce sont des formes qui préparent la caricature. Et ce qui était intéressant, c'est que ces caricatures étaient souvent mal jugées parce qu'on considérait que l'art devait embellir et non enlaidir la réalité. Mais la caricature, vraiment au sens moderne, elle se développe au moment de la Renaissance avec notamment les guerres de religion. Et donc, il faut rappeler, on l'oublie peut-être aujourd'hui, que la caricature a d'abord été une arme de combat politique ou combat religieux, une forme iconographique du pamphlet. Aujourd'hui, souvent, la caricature, elle a plutôt d'abord vocation à faire rire, mais ce n'est pas forcément son seul but, ce n'a pas toujours été le but de la caricature. Elle sert aussi à critiquer, à dénoncer, et le registre humoristique, de ce point de vue-là, ne peut être qu'un moyen au service d'une finalité, soit une finalité politique, morale ou idéologique. Donc, toute caricature ne cherche pas forcément à être drôle, et de ce point de vue-là, il faut aussi d'ailleurs peut-être distinguer la caricature du dessin humoristique auquel elle ne se réduit pas. Et d'ailleurs, tout dessin humoristique n'est pas non plus forcément une caricature proprement dite.
Alors Cédric Passard, vous avez enseigné au lycée, je crois. En quoi l'usage d'une caricature ou de plusieurs en classe peut être un bon outil pédagogique ?
Alors, en quoi elle peut être un bon outil pédagogique ? D'abord parce que, au-delà d'être un outil pédagogique, elle peut d'abord être un objet d'étude, il faut peut-être le rappeler, au sens où elle relève d'abord de l'histoire de l'art, bien évidemment, mais aussi de l'histoire tout court. Et au cours de l'histoire, la caricature a parfois joué un rôle décisif, historiquement déterminant. Par exemple, on peut penser à l'affaiblissement de l'autorité royale sous l'Ancien Régime. Les caricatures de Louis XVI ou de Marie-Antoinette, par exemple, ont participé à l'affaiblissement peut-être de l'Ancien Régime et à la diffusion des idées des Lumières, par exemple, mais par des voies assez détournées. Et donc, elle peut alimenter des réflexions historiques, des réflexions aussi, je crois, en lettres, hein, sur les discours de blâme, sur la satire qu'elle accompagne fréquemment. Mais au-delà de ça, en effet, au-delà du fait d'être un objet d'étude à part entière, elle peut être un support pédagogique. J'y vois, moi, au moins trois raisons. D'abord parce qu'elle est une exagération, on l'a dit, elle peut être un bon moyen de faire réagir justement les élèves et d'éveiller leur curiosité, de susciter la discussion. C'est un support qui peut amuser, c'est un support qui peut aussi justement laisser peu de place à la nuance, qui est toujours bien pour susciter un débat avec les élèves. Et dans mon expérience de professeur de lycée que vous rappeliez en sciences économiques et sociales, je sais que c'était une bonne manière de sensibiliser les élèves, d'ouvrir un cours, et c'était aussi une manière de diversifier des supports pédagogiques par rapport à des documents parfois un peu traditionnels, type documents statistiques, textes. Donc pour des élèves qui sont parfois un peu plus rétifs aux documents qui sont les plus scolaires, on va dire, c'est une manière de dédramatiser une relation au savoir, comme on peut le faire d'ailleurs avec l'utilisation, par exemple, de la bande dessinée. C'est une manière de transmettre autrement le savoir. C'est aussi une manière, peut-être, de développer certaines compétences spécifiques qu'on ne peut pas travailler justement avec d'autres documents. Et c'est le deuxième point, c'est que l'utilisation de la caricature, elle ne peut pas se faire sans un minimum d'éducation à l'image, ce qui est absolument important dans une société dans laquelle l'image est omniprésente, comme la nôtre. Et même si justement il y a une accessibilité apparente de la caricature, ben justement cette accessibilité, elle n'est souvent qu'apparente. Et il est important, je pense, de travailler avec les élèves la complexité de ce genre qui les amène peut-être à devoir emprunter en sens inverse, finalement, le travail qu'a fait le dessinateur pour retrouver le sens. Et donc, percevoir l'implicite, percevoir le second degré, percevoir l'ironie, distinguer le sens propre et le sens figuré, le réel et la représentation du réel. Bon, finalement, c'est une éducation à l'image. C'est aussi parfois une éducation à l'humour. Hein, et l'humour a aussi ses codes. Donc, plus généralement, et pour terminer sur ce point, je pense que la caricature, elle participe finalement quand même aussi, bien sûr, de la formation d'un esprit critique. Par sa nature même, elle est un document qui est un document polémique, un document critique, puisque le caricaturiste, il porte un regard nécessairement subjectif sur une question, et donc il incite l'élève aussi à faire lui-même son propre jugement, à confronter son point de vue, peut-être en utilisant parfois d'autres sources. Donc, s'il y a une éducation à l'image à faire, il faut rappeler que la caricature, ce n'est pas simplement en tant qu'image qu'elle doit être décodée, mais c'est aussi en tant que message, et donc c'est une manière d'entrer dans l'apprentissage de l'argumentation. Pareil.
Alors, vous parliez d'éducation à l'image, justement, on sait bien que la caricature n'est pas une nouveauté. En quelques mots, que révèle-t-elle de son époque ?
Alors, qu'est-ce que la caricature révèle de son époque ? C'est une vaste question, mais je pense qu'elle nous informe d'abord d'un certain nombre de procédés techniques et esthétiques, de canons artistiques, finalement, d'une époque. Il faut rappeler là aussi que la caricature a pu prendre des visages très variés au cours de l'histoire, ne serait-ce que pour ses supports, puis les papyrus égyptiens, en passant par les gravures, les estampes, la lithographie, les dessins de presse, les graffitis, aujourd'hui Internet aussi, qui peut être un support de caricature. Donc elle renvoie de ce point de vue-là d'abord à la maîtrise de certaines techniques, de certains savoir-faire spécifiques, qui sont notamment étudiés par les historiens de l'art. Et on peut penser d'ailleurs à la maîtrise de la perspective, par exemple, dans l'art graphique, dans les déformations du visage, par exemple, les visages monstrueux de Léonard de Vinci à la fin du XVe siècle, qui sont une préfiguration aussi des caricatures modernes. Donc, c'est un premier point, évidemment. Mais par ailleurs, la caricature, elle interroge aussi, on pourrait dire, les évolutions dans la définition même du représentable. C'est-à-dire justement de quoi on se moque, de qui on se moque, de qui on peut se moquer. Et la caricature est toujours tributaire de normes du risible qui sont historiquement construites. Hein. Chaque époque, chaque groupe engendre un risible différent. Et la question de savoir est-ce qu'on peut railler les puissants, les autorités politiques, religieuses, les dieux eux-mêmes ou dieux. Est-ce qu'on finalement, c'est une question qui se pose de manière différente à chaque époque. Donc, ça renvoie à des normes sociales changeantes, mais aussi, bien sûr, à des contraintes qui sont des contraintes éthiques, des contraintes légales et à des formes de censure. Hein. Et de ce point de vue-là, la caricature, elle traduit aussi le degré de tolérance de la société, puisque la caricature, elle est souvent un outil de contestation, de critique, et elle flirte souvent d'ailleurs avec une certaine délectation avec les frontières morales, légales de la société ou de certains groupes sociaux. Donc elle met à l'épreuve la société parce qu'elle désenchante parfois certaines de ses croyances. Hein. Et donc c'est aussi intéressant de s'interroger là-dessus, même s'il faut rappeler que les usages là aussi de la caricature, ils sont variés, parce qu'elle peut être un outil de contestation, elle peut être aussi, donc non seulement bien sûr une forme de contre-pouvoir, elle peut être aussi mise au service de propagande haineuse de régimes autoritaires ou totalitaires. Hein. Donc évidemment les usages y sont très variés.
Alors vous parliez de mise à l'épreuve de la société. En France, la caricature est un droit fondamental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi ? Et j'irai même un peu plus loin, est-ce qu'on peut se demander si la caricature a encore un avenir ?
Effectivement, la caricature, elle témoigne du degré de liberté d'expression ou de degré de tolérance, comme je viens de le dire, dans la société. Et en France, vous avez raison de le rappeler, elle apparaît incontestablement garantie comme un droit fondamental ou comme un droit de l'homme, on pourrait dire, au nom, au titre même de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'il faut rappeler, hein, puisqu'il dispose que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Alors la question qui se pose souvent, c'est justement la question de ces abus et de la définition de ces abus. Alors la caricature, parce qu'elle est une outrance, elle peut être un terrain critique pour tester ses limites. Mais évidemment, si la liberté d'expression devait s'arrêter là où ce que l'on dit risquait de déplaire aux gouvernants, à des autorités, à l'armée, à tel ou tel groupe, eh bien le principe même de la liberté d'expression serait vidé de tout sens. D'ailleurs, la plupart des régimes autoritaires, absolutistes ou totalitaires, même parfois lorsqu'ils autorisent formellement la liberté d'expression, vont criminaliser par ailleurs les discours contestataires, comme les caricatures, en réintroduisant d'autres dispositions telles que l'atteinte à l'honneur de la pratique, les insultes au gouvernement, etc., le blasphème. Bon. Et dans ce cas, évidemment, il n'est pas très gênant d'accorder la liberté d'expression si par ailleurs on la retire par d'autres formes, hein, si tout terrain et si toute critique se trouve ensuite condamnée. Et donc en France, hein, même si la caricature n'est pas forcément évoquée explicitement, par exemple dans la loi sur la presse de 1881, elle bénéficie aujourd'hui d'une large tolérance qui est reconnue par les tribunaux. Et par exemple, hein, je pense qu'il faut citer cet arrêt de la Cour d'appel de Paris en 1991 qui a fait date et qui précise, je cite, « On doit tolérer l'inconvenance grossière et provocatrice, l'irrévérence sarcastique sur le bon goût, desquelles l'appréciation de chacun reste libre, mais qui ne peuvent pas être perçues sans tenir compte de leur vocation ouvertement satirique et humoristique qui permet des exagérations et des présentations ironiques. » Donc, on considère en France, en tout cas la loi et les tribunaux considèrent qu'un caricaturiste peut heurter des sensibilités, voire parfois choquer, sans que ce ne soit considéré comme de la diffamation, de l'injure. Donc, on reconnaît ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre un philosophe qui s'appelle Rouvenogien, une certaine liberté d'offenser, c'est-à-dire s'en prendre à la morale, au bon goût, aux convictions, y compris politiques ou religieuses, c'est-à-dire finalement à tout ce qui renvoie à des choses abstraites ou symboliques. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit après de porter préjudice à des personnes. Hein. Évidemment, tout n'est pas permis. Même dans notre démocratie, la caricature ne peut pas appeler à la discrimination, à la haine ou à la violence, par exemple. Hein. Alors, quel est l'avenir? En fait, on voit qu'aujourd'hui, alors c'est ce qui est peut-être un peu étonnant ou paradoxal, c'est peut-être que parfois la loi est plus tolérante que parfois la société. Et que dans la société, en effet, il y a des sensibilités qui peuvent parfois mal ressentir la caricature. Hein. Donc, c'est une situation inversée parfois par rapport à ce qui se produisait auparavant, où généralement, la société était plus tolérante que la loi, dans des cas de censure, par exemple. Aujourd'hui, peut-être que les cas de censure, on n'a plus de censure au sens où on entend classiquement, c'est-à-dire évidemment une interdiction préalable, et il n'y a plus de censure légale. L'État, finalement, laisse une grande liberté au droit de caricaturer, mais c'est dans la société que parfois il y a des controverses ou des débats, qui sont aussi d'ailleurs légitimes, hein, qui peuvent apparaître.
Alors, Cédric Passard, merci beaucoup pour cet éclairage sur la caricature. Je pense qu'on a gagné en vous écoutant le droit de réfléchir, en tout cas d'avoir un sens critique. Je rappelle que vous avez animé aussi un webinaire intitulé « Caricature et liberté d'expression » qui est désormais accessible dans la Canothèque de Réseau Canopée. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Une production Réseau Canopée 2020.